BPM, élection régionale 2021.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, les élections régionales auront lieu le 20 et le 27 juin prochain. À cette occasion, BPM Vernon vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les élections régionales de Normandie viendront répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie Carbar, candidate tête de liste aux élections régionales de Normandie. Stéphanie Carbar, bonjour.
Bonjour Fred.
Vous êtes députée LREM de la 9e circonscription de Seine-Maritime.
C'est ça même.
Vous menez la liste sans étiquette pour vous, avec vous, aux élections régionales de Normandie. Durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences de la région. Alors, vous êtes députée LREM. Vous avez décidé de mener une liste contre celle de Laurent Bonnaterre, qui a lui été investi par le parti. Alors, pourquoi avoir pris cette décision?
Alors, ce n'est pas une liste contre le candidat Laurent Bonnaterre. C'est une liste pour les Normands et pour la Normandie, avec une vision sur le développement économique, écologique, culturel et touristique.
Parce que ça a fait parler, hein. C'était Stanislas Guérini, délégué de LREM sur LCI, a annoncé votre exclusion du mouvement, que vous vous y étiez présenté parce que vous avez été déçu de ne pas être sur la liste.
Non, tout ça, ce sont des extrapolations. Nous avions, je l'ai dit précédemment, une vision pour notre territoire, des actions que nous avions envie de porter. Et nous nous sommes rassemblés, sans colistier, sur l'ensemble des départements, principalement issus du monde associatif, très investis pour la Normandie et je dirais même plus généralement pour la France. Et voilà, nous nous présentons aujourd'hui devant les électeurs avec la liste pour vous, avec vous.
Alors, passons aux compétences de la région. En premier lieu, les transports. Les transports répondent-ils actuellement aux besoins des Normands, selon vous?
Eh bien, on entend, je ne serai pas dans le jugement, simplement on voit des associations d'usagers qui sont mécontents et donc on se dit qu'il y a effectivement un sujet. Et ce que nous proposons, c'est de lancer une grande consultation régionale sur les usages des Normands en termes de transport, afin de développer des infrastructures donc qui sont adaptées à leurs besoins actuels, mais aussi futurs, notamment en ce qui concerne les transports en commun. Alors, quand je parle des besoins, c'est à la fois des besoins des usagers, mais également des besoins en termes de transition écologique, puisqu'on sait que le transport est un des secteurs émetteurs. Et cette consultation réunira l'ensemble des collectivités, les opérateurs, les associations d'usagers. On travaillera également avec les ministères pour bien identifier ces besoins et surtout inclure également une réflexion autour de l'innovation dans les transports. Et quand je parle d'innovation dans les transports, c'est par exemple la navette autonome. Et puis, il y a également toute la question des transports des personnes à mobilité réduite ou encore en ruralité, notamment les personnes âgées.
Oui, parce que ça doit être un problème, les transports dans votre circonscription, par exemple, qui est très rurale.
Alors, ma circonscription est très rurale. Aujourd'hui, ce que l'on propose également, c'est que il faut donner envie de transport collectif. Il faut donner envie du train, etc. Et ce que l'on remarque, c'est que l'infrastructure autour des installations ne répond pas forcément aux besoins des usagers. Par exemple, vous avez, je vais parler du vélo, puisqu'aujourd'hui la mobilité, ce n'est pas que le train, c'est aussi donc on a le véhicule personnel, puis c'est aussi le vélo. On a des garages à vélo, mais par exemple le matin vous arrivez avec un vélo qui est détérioré, aujourd'hui vous n'avez pas de possibilité d'avoir un flash code, par exemple, avec une application, une structure par exemple de l'ESS, pas que, mais ça peut, qui viendrait réparer votre vélo dans la journée, et le soir, vous repartez avec un vélo réparé.
Voilà. Bah déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de Vernonnais et de Vernonnaises qui prennent le train pour aller à Paris au travail.
Tout à fait.
Si je veux prendre mon vélo, par exemple, je veux essayer de faire un petit peu écolo, j'ai essayé de changer, c'est très compliqué de mettre mon vélo dans le train déjà.
Voilà, donc les emplacements, voilà, vous avez compris, c'est ce qu'on prône, l'environnement autour de l'infrastructure, même les connexions. Quelle liaison entre le car, les bus et puis le train. C'est vraiment comment est-ce qu'on crée tous ces hubs, je dirais, de connectivité sur l'ensemble du territoire.
Alors, la transition est toute trouvée pour parler environnement. Vous souhaitez une ressource en eau et en air de qualité. Alors, Vous me disiez hors antenne que la qualité de l'air en Normandie n'était vraiment pas très bonne.
Alors, dernièrement, il y a le rapport de l'Observatoire de la transition écologique qui est baptisé Enviroscore, eh bien, classe la Normandie 12e région sur les 13 concernant la qualité de l'air. Donc, je dirais que c'est un classement. Nous ne sommes pas dans le jugement, mais clairement, il faut agir parce que derrière, c'est la santé des Normandes et des Normands qui est en jeu. C'est vraiment important. On ne peut pas laisser ce sujet sur le côté de la table. Et donc, on sait que les trois grands secteurs émetteurs sont l'industrie, le logement et le transport. On vient de parler du transport. Effectivement, c'est une bonne transition.
Donc, mais le transport, vraiment... par exemple, sur la 13, ça va être compliqué d'arrêter les camions, hein.
Après, parce que
la 13 est un grand axe. Hein, qui
après, il y a tout le développement derrière du fret. Et puis, on a quand même aussi l'axe Seine à ne pas négliger. Donc voilà, je ne dis pas aujourd'hui que ça va être facile, mais il faut se redresser les manches et travailler. Voilà. Donc, il faut agir à la fois dans le logement, dans le bâtiment, faire de la rénovation énergétique. Et puis, également, nous, ce que nous proposons pour la partie... on fait une petite transition, mais notamment des diagnostics de bâti. On voit aussi dernièrement qu'on a des balcons qui s'écroulent et les gens doivent pouvoir vivre en sécurité. Donc, on propose des diagnostics sur le bâti et les bâtiments d'art.
Mais ça existe déjà, il me semble, les diagnostics énergétiques.
Énergétiques, mais pas de structure.
Mais pas de structure.
Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez Madame Bossuge qui porte ça au niveau national. Nous l'avons rencontrée. Nous avons commencé à initier le travail avec elle. Et l'idée que nous proposons dans la liste pour vous avec vous, c'est dans plusieurs domaines d'ailleurs, c'est de faire de la Normandie un territoire d'expérimentation et un territoire pionnier pour après peut-être faire des émules au niveau national.
Alors, on va passer à une autre compétence de la région, l'enseignement. Quels sont vos projets en matière d'infrastructure et d'enseignement dans les lycées?
Alors, concernant l'infrastructure sur les lycées, on a le grand plan national, sur tout ce qui est rénovation, justement, on en parlait tout à l'heure, thermique, etc. L'idée, nous, maintenant, c'est de s'adresser vraiment aux jeunes. Et par exemple... il y a en ce moment, ce que l'on découvre, c'est l'accès aux protections hygiéniques, par exemple, pour les jeunes femmes. Nous proposons d'en mettre dans les lycées. Ce que l'on propose également, c'est une grande consultation pour les jeunes, pour comprendre leurs besoins, leurs envies, et surtout les inviter à s'investir. Et pour ça, on va travailler avec une association qui s'appelle Territoires Solidaires d'Avenir pour lancer cette grande consultation qui s'inscrira. Elle sera mise en œuvre de toute façon, indépendamment de cette élection régionale, pour faire un grand tour de France de la jeunesse.
De la jeunesse. Mais alors, pour les lycéens, vous avez, il y a des candidats qui proposent des tablettes et des numériques pour
développer. Oui, vous savez, quand on n'est pas... Vous savez, Alors là, on revient un petit peu à ce qu'on se disait hors micro tout à l'heure. Nous, qu'on propose, c'est pas le grand soir, mais vraiment des choses concrètes, je dirais. Et aujourd'hui, je dirais que c'est facile aujourd'hui de venir proposer des... Excusez-moi, mais c'est la colère là qui est en train de reprendre le dessus. C'est facile aujourd'hui en période électorale de venir proposer des tablettes et des ordinateurs, etc. C'est pendant le premier confinement qu'il fallait faire ça. C'est l'année dernière, je dirais simplement à ces candidats, ils ont déjà un an de retard. Et en ce qui me concerne, en tant que députée, moi j'avais lancé un appel aux fondations d'entreprises et j'ai eu deux entreprises qui ont répondu favorablement, EDF et Exxon, en faisant une dotation d'ordinateurs pour aller équiper les élèves qui malheureusement n'avaient pas d'ordinateur. Et puis, indépendamment du fait de fournir des tablettes ou des ordinateurs, je dirais qu'il faudrait également avoir de la connexion. Donc, il faut aller plus loin que juste le don d'ordinateur. C'est un peu comme les gares tout à l'heure. On met des garages à vélo, mais on met pas les moyens pour transporter son vélo ou mettre des structures autour pour réparer le vélo. Là, on offre des tablettes sans avoir la connexion ou l'offre de connectivité qui va avec. Donc, arrêtons de faire les choses à moitié aussi et déroulons le fil jusqu'au bout.
Alors, après l'enseignement, on va passer à l'emploi et à la formation professionnelle. Vous désirez accompagner la création de nouvelles filières industrielles et agricoles.
Aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a une désindustrialisation. On le vit depuis plusieurs années. Ce n'est pas particulier à la Normandie, mais en Normandie, ça se passe aussi. Donc, il faut vraiment aujourd'hui arrêter tout cela. Et notamment, il y a la question ces fameuses filières, nouvelles filières que l'on se propose de créer, se situent par exemple justement autour de l'innovation en termes d'environnement, de transition écologique. Il y a toute la question du déchet. Depuis fin 2019, moi, je suis vraiment... je travaille vraiment de manière très active sur le dossier Chapelle d'Arblay. Vous avez dû en entendre parler. C'est une usine qui se situe en Normandie, près de Rouen. C'est un outil industriel qui est mutualisé avec plusieurs régions et qui est la seule usine capable de faire aujourd'hui en France du papier journal avec 100% de papier recyclé. Eh bien, aujourd'hui, cette usine est fermée. Il y a 300 familles, sur le carreau, en parlant familièrement, et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des repreneurs, un en particulier que j'ai en tête, qui peut redémarrer ce site avec de suite 150 emplois à la clé. Et à l'heure où on demande aux citoyens de trier, de mettre dans le bac jaune, le bac marron, etc., on ne peut pas envoyer ces papiers usagés à l'étranger, notamment principalement en Allemagne, créer de l'emploi en Allemagne et ne pas le faire en France et notamment en Normandie.
Alors, puisqu'on parle industrialisation, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée d'Amazon près de Rouen ?
Écoutez, en toute honnêteté, je n'ai pas travaillé ce dossier en particulier, donc je n'ai pas en tête la zone d'implantation et les conditions. Aujourd'hui, tout le monde décrit, il y a des manifestations. On a reçu à l'Assemblée nationale des cartons dans nos bureaux, des cartons vides dans nos bureaux pour nous sensibiliser contre l'implantation d'Amazon. Moi, je dirais simplement que c'est quand même, pendant le confinement, on l'a vu, les gens se sont plutôt tournés vers ce genre de solution.
On pouvait pas faire autrement.
Et puis, Amazon aussi, il faut savoir que c'est une plateforme qui offre, une visibilité, et notamment parfois même à des commerçants. Moi, j'ai eu le cas d'un libraire que j'ai en tête. Là, c'est une petite anecdote, mais quand il avait acheté son commerce, il y avait un stock de livres qu'il pouvait plus mettre en rayon. Pendant le confinement, il a ouvert une plateforme sur Amazon, et bien tout le stock est parti. Voyez-vous. Donc ça offre aussi des services, en tout cas, à la fois aux commerçants et à la fois à la population.
Alors, continuons avec le développement économique. On va s'intéresser aux agriculteurs. Vous souhaitez mettre en place une agriculture durable en procurant des revenus décents. Alors, les revenus des agriculteurs, ça fait quoi? Une dizaine d'années?
On en parle.
Vingtaine d'années qu'on en parle.
Ouais.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment?
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment on en a parlé, toute la partie de transition, d'accompagnement, etc. Je pense qu'on peut être arrivé à un modèle qui atteint ses limites aussi. Derrière la notion de nouvelles filières ou de revenus décents pour les agricultures, il y a toute la question aussi de l'alimentation. Et donc nous, ce que l'on propose, c'est d'intensifier les aides à l'installation et à la transmission en agriculture, et en particulier vers les jeunes, parce qu'on voit que la démographie des exploitants agricoles risque à terme dans les prochaines années de voir des départs à la retraite en grand nombre. Et si on n'a pas préparé cette transition, ça risque vraiment d'être compliqué. Moi, j'attire vraiment l'attention sur ce sujet, et dans cette réflexion, je souhaite que l'on intègre également ce que l'on appelle l'accès au foncier. Et d'ailleurs, en ce moment, à l'Assemblée nationale, il y a des travaux On souhaite également être pesé dans le dispositif consacré à la conversion au niveau de l'agriculture biologique. Ça, c'est la PAC, qui toutes les négociations de la PAC qui sont en cours à l'heure actuelle au niveau européen. Et puis, dans le cadre de cette campagne électorale, on souhaite attirer l'attention également sur les risques de tension entre les éleveurs et le secteur de la méthanisation, puisque on commence à entendre que ça limiterait les possibilités, les disponibilités fourragères. Et en plus, cela a un effet inflationniste sur le prix. Donc, on souhaite vraiment garder un focus aussi sur ce sujet. Et puis, il y a toute la proposition d'augmentation des enveloppes pour les programmes de développement ruraux régionaux. Et on propose de retenir comme enjeu, eh bien, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la qualité de l'eau, la biodiversité, la préservation des prairies, lutter contre l'érosion des sols. Et puis, on propose également, alors on a plein d'autres propositions, mais notamment un grand plan régional pollinisateur, et puis la création, la consolidation de nouvelles filières, que ce soit dans le bois, dans les volailles, les protéines végétales aussi avec la luzerne. Bon, voilà, il y a tout plein de choses à faire. Et encore une fois, moi, je dis qu'il faut travailler et s'y atteler.
Alors, pourquoi souhaitez-vous que la Normandie soit une région pilote pour l'identification et l'obtention de financements européens? On sait que l'Europe finance beaucoup de choses. Mmh. Et vous dites qu'il faut revoir un petit peu le système, que ça soit dirigé plus vers les entrepreneurs, les agriculteurs, les commerçants, les étudiants et les associations.
Alors aujourd'hui, les financements européens sont déjà orientés vers ces publics. Nous, ce que l'on propose, c'est un petit peu d'inverser la méthode, c'est-à-dire que que ce soit vraiment la région qui soit vraiment au fait de l'ensemble des financements européens et qui aille vers les entrepreneurs, le monde associatif, etc., pour leur proposer ces financements, et notamment en intégrant aussi un accompagnement dans la constitution des dossiers, parce qu'aujourd'hui on sait que les plus petites structures, notamment les TPE,
c'est des gros PME, dossiers, hein.
Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment c'est vraiment de l'administratif, c'est vraiment compliqué, et les petites structures n'ont pas les moyens humains pour forcément constituer ces dossiers, ne font pas forcément appel à du conseil pour les accompagner, et du coup ne font pas et passent à côté de financements qui pourraient leur être octroyés, et donc nous proposons également la réduction des délais d'instruction de ces dossiers.
Allez, il nous reste 2 minutes 30, on va parler de deux sujets. Le premier, comment comptez-vous lutter contre les déserts médicaux? Alors, c'est un vrai problème en France.
Ouais, hein. C'est un vrai problème, et en plus c'est pas une compétence première de la région. Donc c'est là que se situe la difficulté. Je dirais que la région peut vraiment accompagner en termes de financement, d'implantation, être une région facilitatrice, et notamment pour les maisons de santé et également pour les pôles de télémédecine que je prône depuis 4 ans. Et puis également sur la formation.
Une question sur la culture et le tourisme. Vous voulez rendre la vie culturelle et touristique plus attractive en Normandie? Elle est déjà quand même,
oui,
un petit peu.
Elle est très attractive, mais c'est attractive. Il vous manque un petit bout pour tous les publics.
Pour tout, voilà. Voilà, vous voulez qu'elle soit adaptée plus aux personnes en situation de handicap.
Voilà, donc l'accessibilité aussi de l'ensemble des compétences, on n'en a pas parlé, mais le monde du handicap est souvent oublié. Aujourd'hui, je suis signataire d'une charte, et c'est de dire, notre programme, c'est vraiment travailler en systémique, c'est-à-dire sur chaque compétence que l'on vient de balayer ce matin avec vous, Fred, c'est de regarder comment est-ce que on s'adresse aussi aux personnes en situation de handicap, et notamment pour la partie culture. Quand on dit ça, touristique, accessible aux personnes en situation de handicap, tout le monde pense à la mobilité, enfin à l'accessibilité, oui, avec des rampes, etc. Nous, on va au-delà de tout ça, notamment par exemple quand vous êtes sensible d'un point de vue au bruit, etc. C'est de dire, créons, ouvrons des espaces de visite aménagés pour ces personnes, pour les accueillir aussi, je dirais, confortablement. Et puis, même quand on rentre dans l'âge, vieillir, ça peut aussi être compliqué. Et donc, on s'adresse aussi à ce public-là. Donc, voilà, notre programme, c'est un programme un peu systémique. Quand vous ouvrez un tiroir, en fait, dans la réalité, vous touchez à plusieurs domaines.
Allez, un dernier petit mot sur la sécurité en Normandie. Pour vous, y a-t-il des problèmes de sécurité en Normandie? Et si oui, comment en venir à bout?
Alors là, c'est l'Arlésienne, je dirais, la sécurité, tout le monde en parle. Ce n'est pas une compétence de la région, ça a déjà dû être dit. C'est quelque chose qui vient du national, on surfe là-dessus, on joue sur les peurs. La peur n'a jamais fait avancer. Je dirais simplement que les derniers événements que l'on a pu vivre, tragiques, c'était des personnes qui ont agi de manière solitaire. Et aujourd'hui, moi, je propose plutôt que l'on travaille sur les causes de tout cela, de l'exclusion, du décrochage scolaire, plutôt que de la sécurité par elle-même. Voilà, ça relève du national et chacun doit aujourd'hui faire son travail et le faire bien.
Stéphanie Carbar, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Cette émission sera rediffusée à 13h et 19h. À 8h, nous recevrons Delphine Blitman qui représente la liste Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Les élections régionales sur BPM continueront toute cette semaine. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM Vernon.